Troisième partie. Aurora. Chapitre 8. Monde interdit. 31.
Golan, dit Pellorat. Est-ce que cela vous dérange si je regarde?
Pas du tout, Genoff, dit Trévise.
Si je pose des questions?
Allez-y.
Qu'êtes-vous en train de faire? Demanda Pellorat.
Trévise quitta des yeux l'écran de visualisation.
Je dois mesurer la distance de chacune des étoiles de l'écran qui semble proche du monde interdit, de manière à pouvoir déterminer leur proximité réelle. Cela exige de connaître leur champ de gravitation, et pour ce faire j'ai besoin de savoir leur masse et leur distance. Faute de ces données, on ne peut être certain d'effectuer un saut correct.
Et comment vous y prenez-vous?
Eh bien, chaque étoile que je fixe a ses coordonnées en mémoire dans l'ordinateur qui peuvent être converties en coordonnées dans le système de Comporellon, lesquelles à leur tour peuvent être légèrement corrigées en fonction de la position actuelle de l'étoile lointaine dans l'espace relativement au soleil de Comporellon, ce qui me fournit ainsi ma distance à chacune. Sur l'écran, toutes ces naines rouges paraissent toutes proches du monde interdit, mais certaines peuvent en réalité se situer bien plus près, et d'autres bien plus loin. Nous avons besoin de connaître leur position dans un espace tridimensionnel, voyez-vous.
Pellorat acquiesça. Et vous avez déjà les coordonnées du monde interdit?
Oui, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin des distances des autres étoiles avec une marge en gros inférieure à 1%. Leur intensité gravitationnelle dans les parages du monde interdit est si réduite qu'une légère erreur ne crée pas de différence perceptible. Le soleil autour duquel tourne ou pourrait tourner le monde interdit possède un champ gravitationnel d'une intensité énorme à proximité de la planète. Et je dois connaître sa distance avec une précision peut-être 1000 fois supérieure à celle des autres étoiles. Dans ce cas, les coordonnées seules ne suffisent pas.
Alors que faites-vous?
Je mesure la distance apparente séparant le monde interdit, ou plutôt son étoile, de 3 étoiles proches si faibles qu'il faut un grossissement considérable pour les discerner. On peut présumer que celles-ci sont situées extrêmement loin. Ensuite, tout en maintenant l'une des 3 centrée sur l'écran, on saute 1/10 de parsec dans une direction normale à la ligne de visée vers le monde interdit. Une manœuvre qu'on peut effectuer en toute sécurité, même en ignorant la distance d'étoile comparativement lointaine. L'étoile de référence centrée dans le viseur devrait le rester après le saut. Les 2 autres astres faibles, si tous les 3 sont effectivement très éloignés, ne changent pas de position de manière mesurable. Le monde interdit, en revanche, devient assez proche pour que la modification parallactique révèle sa position. L'ampleur de cet écart nous permet de déterminer sa distance. Si je veux en être doublement certain, je choisis 3 autres étoiles et fais un autre essai.
Combien de temps tout cela prend-il?
Demanda Pellorat. Pas très longtemps. L'ordinateur fait le plus difficile. Je me contente de lui donner les instructions. Ce qui exige en fait le plus de temps, c'est d'étudier les résultats et de s'assurer qu'ils sont corrects et que mes instructions ne sont pas quelque part erronées. Si j'étais un de ces casse-coups qui ont une confiance totale en eux-mêmes et en leur ordinateur, tout cela pourrait être réalisé en l'espace de quelques minutes.
C'est vraiment étonnant d'imaginer tout ce que l'ordinateur fait pour nous.
J'y pense en permanence.
Que feriez-vous sans lui?
Que ferais-je sans un vaisseau gravitique? Que ferais-je sans ma formation d'astronaute? Que ferais-je sans 20 000 ans de technologie hyperspatiale derrière moi? Le fait est que je suis moi-même, ici et maintenant. Supposez qu'on se projette à 20 000 ans dans l'avenir. De quel prodige technique ne devrions-nous pas être reconnaissants? Ou se pourrait-il que dans 20 000 ans, l'humanité n'existe plus?
Peu probable, dit Pellorat. Peu probable qu'elle n'existe plus.
Même si nous ne faisons pas partie de Galaxia, nous aurons toujours la psychohistoire pour nous guider. Trévise pivota dans son fauteuil, rompant le contact avec l'ordinateur. Laissons-le calculer les distances et opérer plusieurs vérifications. On n'est pas pressé. Puis il regarda Pellerat d'un air intrigué et dit « La psychohistoire. » « Vous savez, Janov, le sujet est venu deux fois sur le tapis sur Comporellon et les deux fois, on l'a décrit comme une superstition. Je l'ai dit moi-même le premier et Deniador l'a répété ensuite. Après tout, comment pouvez-vous définir la psychohistoire autrement que comme une superstition de la Fondation? N'est-ce pas une croyance dénuée de toute preuve? Qu'en pensez-vous, Janov? Après tout, c'est davantage votre domaine que le mien. Pourquoi dites-vous qu'il n'y a aucune preuve, Golan? Le simulacre d'Harry Seldon a fait une douzaine d'apparitions dans la crypte du temps. Et chaque fois, il a discuté des événements tels qu'ils se produisaient. Il n'aurait pas pu les connaître à l'avance à son époque s'il n'avait pas été capable de les prédire par la psychohistoire. Trévise acquiesça. Cela paraît impressionnant. Certes, il s'est trompé au sujet du mulet, mais même ainsi le résultat reste remarquable. Pourtant, il y a là-dedans un petit côté magique désagréable. N'importe quel magicien peut réussir des tours. Aucun magicien ne pourrait prédire un avenir éloigné de plusieurs siècles. Aucun magicien ne pourrait réellement faire ce qu'il veut vous faire croire qu'il fait. Allons, Golan. Je ne vois pas quel truc me permettrait de prédire ce qui se produira dans 5 siècles d'ici. Pas plus que vous n'imaginez quel truc permet à un magicien de lire le contenu d'un message dissimulé dans un pseudo-tesseract en orbite dans un satellite artificiel inhabité. Malgré tout, j'ai vu un magicien le faire. L'idée ne vous est jamais venue que la capsule temporelle, en même temps que le simulacre d'Harry Seldon, pourrait être truquée par le gouvernement ? Pellerat donna l'impression d'être révolté par cette suggestion. « Il ne ferait pas ça. » Trévise émit un borborygme méprisant. « Et il se ferait prendre s'ils essayaient, » ajouta le bon docteur. « Je n'en suis pas du tout certain. » « Le fait demeure toutefois que nous ignorons totalement comment marche la psychohistoire. Je ne sais pas comment marche l'ordinateur, mais je sais qu'il marche. » C'est parce que d'autres le savent. Qu'en serait-il si personne ne le savait? À ce moment-là, si pour une raison ou une autre, il cessait de fonctionner, nous serions totalement désemparés. Et si la psychohistoire cessait subitement de marcher? Les seconds fondateurs connaissent les mécanismes de la psychohistoire. Qu'en savez-vous, Janov? C'est ce qu'on dit. On peut dire n'importe quoi. Ah! Nous avons la distance de l'étoile du monde interdit, et je l'espère avec grande précision. Examinons les chiffres. Il les considéra un long moment, remuant parfois les lèvres comme s'il effectuait quelque grossier calcul mental. Puis il dit sans lever les yeux « Que fait Joie ?»«
Elle dort, mon ami, » répondit Pellerat.
Puis sur la défensive « Elle a vraiment besoin de sommeil, Golan. » Maintenir son lien avec Gaïa à travers l'hyperespace exige une grosse dépense d'énergie. « J'imagine », dit Trévise avant de se retourner vers l'ordinateur. Il posa les mains sur la console et marmonna. « Je vais le laisser y aller en plusieurs sauts, en revérifiant les calculs entre chaque. » Puis il retira les mains et reprit « Je suis sérieux, Janov. » Que savez-vous réellement de la psychohistoire? Pellerat parut pris de court.
Rien.
Il y a des mondes entre un historien, ce que je suis d'une certaine manière, et un psychohistorien. Bien sûr, je suis au courant des deux conditions de base de la psychohistoire, mais tout le monde les connaît. Même moi. La première requiert que le nombre d'êtres humains impliqués soit assez grand pour rendre valide un traitement statistique. Mais. Quelle est la dimension d'assez grand? La dernière estimation de la population galactique tourne autour de quelque chose comme 10 millions de milliards, et le chiffre est probablement sous-estimé. Voilà qui est sans aucun doute assez grand. Qu'en savez-vous?
Je le sais parce que la psychohistoire, ça marche, Golan. Vous pouvez triturer la logique comme vous voulez. La psychohistoire marche.
Et la seconde condition est que les hommes ne soient pas avertis de la psychohistoire pour éviter que cette connaissance ne gauchisse leur réaction. Seulement voilà, ils sont bel et bien au courant.
Uniquement de son existence, mon ami. Ce n'est pas cela l'important. La seconde condition est que les hommes n'aient pas connaissance des prédictions de la psychohistoire. Et c'est bien le cas, exception faite des seconds fondateurs qui sont censés les connaître, mais constituent un cas particulier. Et à partir de ces deux seules conditions, s'est développée la science de la psychohistoire.
C'est un peu dur à avaler.
Pas de ces seules conditions, rectifia Pellerat. Elle exige des mathématiques avancées et des méthodes statistiques élaborées. L'histoire nous dit, si vous tenez à la tradition, que Harry Seldon a conçu la psychohistoire sur le modèle de la théorie cinétique des gaz. Chaque atome ou molécule d'un gaz se déplace au hasard, de sorte que nous ne connaissons pas leur position et leur vélocité individuellement. Malgré tout, les statistiques nous permettent d'établir des règles gouvernant leur comportement général avec une grande précision. De manière analogue, Seldon comptait décrire le comportement général des sociétés humaines, même si les solutions n'étaient pas applicables au comportement individuel des hommes.
Peut-être. Mais les hommes ne sont pas des atomes.
Certes, admit Pellerat, un être humain a une conscience et son comportement est suffisamment compliqué pour donner l'impression qu'il s'agit de libre arbitre. Comment Seldon en a-t-il tenu compte? Je n'en ai pas la moindre idée et je suis sûr que je n'y comprendrai rien même si un spécialiste essayait de me l'expliquer. Mais il y est parvenu.
Et tout cela à condition de traiter une population humaine à la fois nombreuse et non avertie. Cela ne vous semble-t-il pas un terrain bien meuble pour construire un édifice mathématique aussi imposant? Si ces conditions ne sont pas scrupuleusement remplies, alors tout l'édifice s'effondre.
Mais puisque le plan ne s'est pas effondré,
ou si les conditions ne sont pas exactement fausses ou inadaptées, mais simplement plus faible qu'il n'est requis. La psychohistoire pourra fonctionner de manière correcte pendant des siècles, puis que survienne quelque crise particulière, elle s'effondrera, comme ce fut le cas temporairement à l'époque du mulet. Ou bien imaginez qu'il y ait une troisième condition.
Quelle troisième condition?
Demanda Pellerat en fronçant légèrement les sourcils.
Je ne sais pas. Une démonstration peut apparaître parfaitement élégante et logique, et malgré tout contenir des hypothèses non formulées. Peut-être que la troisième condition est une hypothèse qui va tellement de soi que personne n'a jamais songé à la mentionner.
Une hypothèse aussi évidente est en général suffisamment valide, ou alors elle ne serait pas considérée comme allant de soi.
Trévise souffla par le nez.
Si vous connaissiez l'histoire des sciences aussi bien que vous connaissez l'histoire traditionnelle, Janoff, vous sauriez à quel point ceci est faux.
Mais je vois que nous sommes à présent dans les parages du soleil du monde interdit.
Effectivement, au centre de l'écran, était apparue une étoile éclatante. Si éclatante que sa lumière fut automatiquement filtrée au point que toutes les autres étoiles disparurent.